Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques et de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous faisons une étude d'un autre personnage de la Bible qui paraît aussi dans les pages du Coran. Il s'agit du prophète Jean-Baptiste. Le prochain personnage dans notre liste de prophètes reconnus dans le Coran, aussi bien que dans la Bible, est un homme très respecté, non seulement par les chrétiens, mais aussi par les musulmans, qui le connaissent sous le nom de Yahya, et par les juifs, bien que son nom et son histoire ne paraissent même pas dans leurs écritures. Les chrétiens l'appellent Jean-Baptiste. Selon le livre de Marc, le deuxième livre du Nouveau Testament, l'histoire de Jean-Baptiste représente le commencement de l'Évangile, ou l'Injile, de Jésus-Christ. Une raison possible pour la considération que chacune de ces religions lui accorde est peut-être la sainteté évidente de sa vie. Personne ne pouvait nier que Jean acceptait une vie dure au lieu de se laisser souiller par le monde. Il ne cherchait ni le confort ni la faveur des hommes puissants. Il s'habillait comme un pauvre. Il s'abstenait totalement de vin et il se nourrissait de ce qui pouvait s'obtenir dans le désert. Selon Matthieu chapitre 3 verset 4, le vêtement de Jean était fait de poils de chameau et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Même quand il se mit à prêcher publiquement, Jean ne participait pas à la vie de la société juive, mais il se tenait dans les lieux non habités et la population se rendait auprès de lui pour l'écouter. Mais quelle était la mission de Jean? Nous avons déjà eu un aperçu de sa mission dans notre étude de Zacharie, son père. En effet, avant même sa naissance, l'ange Gabriel avait annoncé au sujet de Jean, « Il s'avancera lui-même devant Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants. » et ramener les désobéissants à la sagesse des hommes justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Luc 1, verset 17. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Zacharie déclara que son fils marcherait devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il le sauvera en pardonnant ses péchés. Quand il avait grandi, il se mit à prêcher en disant « Repentez-vous ». Car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, verset 2. La repentance que Jean demandait était marquée par le baptême, selon le verset 6. En se faisant baptiser, c'est-à-dire immerger dans l'eau, la personne avouait son besoin de se repentir, son intention de changer de comportement. L'acte même portait l'idée d'un bain de purification du péché. C'était pour la rémission ou le pardon des péchés. Jean donnait aux Juifs des avertissements comme celui-ci. « Ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Les foules lui demandèrent alors, « Que devons-nous donc faire ? » Il leur répondit, « Celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de la nourriture doit la partager. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qu'ordonne la loi. » Des soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Luc 3, versets 8 à 14. Voici ce que Jean déclara lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander Qui es-tu ? Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous : Je ne suis pas le Messie. Ils lui demandèrent : Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? Non, répondit Jean, je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Dirent-ils. Il se référait aux paroles de Moïse qui avait prédit la venue d'un prophète comme lui-même. Non, répondit-il. Ils lui dirent alors, Qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Jean répondit, Je suis la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Parmi les messagers envoyés à Jean, il y avait des pharisiens qui lui demandèrent « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu ? » Jean leur répondit « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis même pas assez bon pour délier la courroie de ses sandales. » Jean 1, versets 19 à 27. La mission de Jean était donc tout simplement de préparer la venue de quelqu'un d'autre. En parlant d'arranger une route, on ne parle pas, bien sûr, de mettre en bon état une route physique. Il s'agit de l'image d'un roi dont l'arrivée est préparée par le fait de nettoyer et réparer la route sur laquelle il doit voyager, et par le fait d'envoyer un messager qui annonce sa venue. Il faut que l'arrivée du roi soit observée d'une manière digne de sa royauté. Dans ce cas précis, comme nous l'avons vu, il était question d'appeler le peuple à la repentance. Qui était donc le roi dont Jean prépare la venue de cette façon? Si nous continuons la lecture du même texte, nous voyons la réponse. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé en disant, « Un homme vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. Je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. » L'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 29 à 31. Jean connaissait probablement Jésus depuis sa jeunesse, car leur mère était parentée. Mais ce fut apparemment le jour où Jésus est venu pour se faire baptiser que Dieu révéla à Jean que Jésus était celui dont il préparait la venue. L'Évangile de Matthieu nous dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devais être baptisé par toi. » Et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car c'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepta. Et dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Matthieu 3, versets 13 à 17. Cette expérience confirma pour Jean ce qu'il avait compris à l'égard de Jésus. Il déclara, « J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. J'ai vu cela, dit Jean, et j'affirme donc que cet homme est le Fils de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 32 à 34. Une des très grandes qualités de ce prophète était son humilité. Nous avons déjà vu qu'il se considérait tout simplement comme une voix qui annonce un message au sujet d'un autre. S'il parlait à son propre sujet, c'était afin de magnifier l'importance de celui qui venait après lui. Il n'avait aucun désir d'une gloire personnelle et aucun sentiment de rivalité. Un jour, quelques-uns de ses disciples lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, Voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » L'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 26 à 30. Une autre grande qualité de Jean-Baptiste était son courage. En effet, le gouverneur Hérode Antipas, qui était le fils du méchant roi Hérode le Grand, séduisit Hérodias, l'épouse de son propre frère. Et après avoir divorcé sans cause sa propre femme, il épousa Hérodias. Malgré le pouvoir et la méchanceté de ce gouverneur, Jean-Baptiste eut le courage de condamner ce comportement. Il dit clairement à Hérode, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Matthieu 14, verset 4. Même si la loi de Moïse permettait de divorcer sa femme, elle ne permettait pas de convoiter et séduire la femme de son prochain. Elle interdisait aussi, en Lévitique 18, verset 16 et chapitre 20, verset 21, d'avoir des rapports sexuels avec ou de prendre la femme de son frère. La manière dont Jean s'exprime est significative. Il ne dit pas « Il ne t'était pas permis de prendre ou d'épouser la femme de ton frère ». Dans ce cas, Hérode aurait pu dire « Je me repens, je ne prendrai plus désormais d'autres belles sœurs comme femme ». Jean a plutôt dit « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Au vu de ce que Jean a dit, la repentance exigeait qu'il se sépare d'avec Hérodias. Quand on fait un mariage que la parole de Dieu défend, c'est la relation conjugale qui est pécheresse. Ce n'est pas seulement la cérémonie ou l'action de contracter le mariage qui est une violation de la volonté de Dieu. Parce qu'Hérode n'aimait pas le message qui était de Dieu, il se fâcha contre le messager, qui n'était qu'un homme. Il fit arrêter Jean. Mais la conscience d'Hérode n'était pas morte. Il craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et l'écoutait avec plaisir. Marc chapitre 6, verset 20. Malheureusement, son orgueil et sa considération de l'opinion des hommes l'influençaient plus que son sens du bien et du mal et sa crainte de Dieu. Hérodias, qui n'avait que de la haine pour Jean, le prophète qui voulait faire obstacle à son mariage, a su exploiter cette faiblesse en Hérode. Quand Hérode a fait devant ses invités un vœu de faire pour la fille d'Hérodias qui avait dansé devant lui ce qu'elle demanderait, Hérodias dit à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste. Hérode fut attristé, mais à cause de ses invités qui avaient entendu sa promesse, il n'a pas voulu refuser. Il envoya un garde qui fit décapiter Jean et apporta sa tête sur un plat. Comme Jésus lui-même, Jean-Baptiste était encore relativement jeune quand il est mort. Mais la vie d'un homme n'est pas évaluée selon le nombre de jours qu'il passe sur la terre, mais plutôt selon la nature de ses actes et de son caractère. La mort tragique de Jean n'enlève rien à son honneur. Au contraire, Jésus lui-même dit à son sujet en Matthieu 10, verset 11, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. »
Grandis en moi, Seigneur, et que je diminue, c'est là tout mon souhait, à te le fables, quand ton disciple enfin te sera fait semblable.